Chapitre 11. Beaucoup de choses sont ennuyeuses, Silvio. Il est ennuyeux de rendre l'argent qu'on avait emprunté et qu'on s'était accoutumé à regarder comme à soi. Il est ennuyeux de caresser aujourd'hui la femme qu'on aimait hier. Il est ennuyeux d'aller dans une maison à l'heure du dîner et de trouver que les maîtres sont partis pour la campagne depuis un mois. Il est ennuyeux de faire un roman, et plus ennuyeux de le lire. Il est ennuyeux d'avoir un bouton sur le nez et les lèvres gercées le jour où on va la rendre visite à l'idole de son cœur. Il est ennuyeux d'être chaussé de bottes facétieuses, souriant au pavé par toute leur couture, et surtout de loger le vide derrière l'étoile d'araignée de son gousset. Il est ennuyeux d'être portier, et il est ennuyeux d'être empereur. Il est ennuyeux d'être soi, et même d'être un autre. Il est ennuyeux d'aller à pied parce qu'on se fait mal à ses corps, à cheval parce que l'on s'écorche l'antithèse du devant, en voiture parce qu'un gros homme se fait immanquablement à l'oreiller de votre épaule, et sur le paquebot parce que l'on a le mal de mer et qu'on se vomit tout entier. Il est ennuyeux d'être en hiver parce que l'on grelotte, et en été parce qu'on sue. Mais ce qu'il y a de plus ennuyeux sur terre, en enfer et au ciel, c'est assurément une tragédie, à moins que ce ne soit un drame ou une comédie. Cela me fait réellement mal au cœur. Qu'y a-t-il de plus niais, de plus stupide? Ces gros tyrans à voix de taureau qui arpentent le théâtre d'une coulisse à l'autre, en faisant aller comme des ailes de moulin leurs bras velus, emprisonnés dans des bas de couleur de chair, ne sont-ils pas de piètres contrefaçons de barbe bleue ou de croque-mitaine? Leur rodomontade ferait pouffer de rire, quiconque se pourrait tenir éveillé. Les aventures infortunées ne sont pas moins ridicules. C'est quelque chose de divertissant que de les voir s'avancer, vêtus de noir ou de blanc, avec des cheveux qui pleurent sur leurs épaules, des manches qui pleurent sur leurs mains, et le corps prêt à saillir de leur corset comme un noyau qu'on presse entre les doigts. Ayant l'air de traîner le plancher à la semelle de leurs souliers de satin, et dans les grands mouvements de passion, repoussant leur queue en arrière avec un petit coup de talon. Le dialogue exclusivement composé de « oh » et de « ah », qu'elle glousse en faisant la roue, est vraiment une agréable pâture et de facile digestion. Leurs princes sont aussi fort charmants. Ils sont seulement un peu ténébreux et mélancoliques, ce qui ne les empêche pas d'être les meilleurs compagnons qui soient au monde et ailleurs. Quant à la comédie, qui doit corriger les mœurs, et qui s'acquitte heureusement assez mal de son devoir, je trouve que les sermons des pères et les rabâcheries des oncles sont aussi assommants sur le théâtre que dans la réalité. Je ne suis pas d'avis que l'on double le nombre des sots en les représentant. Il y en a déjà bien assez comme cela. Dieu merci, et la race n'est pas près de finir. Où est la nécessité que l'on fasse le portrait de quelqu'un qui a un groin de porc ou un mufle de bœuf, et qu'on recueille les billevesées d'un manant que l'on jetterait par la fenêtre s'il venait chez vous? L'image d'un cuistre est aussi peu intéressante que ce cuistre lui-même, et pour être vu au miroir, ce n'en est pas moins un cuistre. Un acteur qui parviendrait à imiter parfaitement les poses et les manières des savetiers ne m'amuserait pas beaucoup plus qu'un savetier réel. Mais il est un théâtre que j'aime. C'est le théâtre fantastique, extravagant, impossible, où l'honnête public sifflerait impitoyablement dès la première scène, faute d'y comprendre un mot. C'est un singulier théâtre que celui-là. Des vers luisants y tiennent lieu de quinquets. Un scarabée battant la mesure avec ses antennes est placé au pupitre. Le grillon y fait sa partie. Le rossignol est première flûte. Deux petits sylphes, sortis de la fleur des pois, tiennent des basses, des cordes de citron entre leurs jolies jambes, plus blanches que l'ivoire, et font aller à grand renfort de bras des archets faits avec un cil de titania sur des cordes de fil d'araignée. La petite perruque à trois marteaux dont est coiffé le scarabée chef d'orchestre, frissonne de plaisir et répand autour d'elle une poussière lumineuse tant l'harmonie est douce et l'ouverture bien exécutée. Un rideau d'ailes de papillon, plus mince que la pellicule intérieure d'un œuf, se lève lentement après les trois coups de rigueur. La salle est pleine d'âmes de poètes, assises dans des stalles de nacre de perles, et qui regardent le spectacle à travers des gouttes de rosée montées sur le pistil d'or des lys. Ce sont leurs lorgnettes. Les décorations ne ressemblent à aucune décoration connue. Le pays qu'elle représente est plus ignoré que l'Amérique avant sa découverte. La palette du peintre le plus riche n'a pas la moitié des tons dont elles sont diaprées. Tout y est peint de couleurs bizarres et singulières. La cendre verte, la cendre bleue, l'outre-mer, les lacs jaunes et rouges y sont prodigués. Le ciel d'un bleu verdissant est zébré de larges bandes blondes et fauves. De petits arbres fluets et grêles balancent sur le second plan leur feuillage clairsemé, couleur de rose sèche. Les lointains, au lieu de se noyer dans leur vapeur azurée, sont du plus beau vert pomme et il s'en échappe, çà et là, des spirales de fumée dorée. Un rayon égaré se suspend au fronton d'un temple ruiné ou à la flèche d'une tour. Des villes pleines de clochetons, de pyramides, de dômes, d'arcades et de rampes sont assises sur les collines et se réfléchissent dans des lacs de cristal. De grands arbres aux larges feuilles, profondément découpés par les ciseaux des fées, enlacent inextricablement leurs troncs et leurs branches pour faire les coulisses. Les nuages du ciel s'amassent sur leurs têtes comme des flocons de neige, et l'on voit scintiller dans leurs interstices les yeux des nains et des gnomes. Leurs racines tortueuses se plongent dans le sol comme le doigt d'une main de géant. Le pivert les frappe en mesure avec son bec de corne, et des lézards d'émeraude se chauffent au soleil sur la mousse de leurs pieds. Le champignon regarde la comédie, son chapeau sur la tête, comme un insolent qu'il est. La violette mignonne se dresse sur la pointe de ses petits pieds, entre deux brins d'herbe, et ouvre toute grande ses prunelles bleues, afin de voir passer le héros. Le bouvreuil et la linotte se penchent au bout des rameaux pour souffler les rôles aux acteurs. À travers les grandes herbes, les hauts chardons pourprés et les bardanes aux feuilles de velours serpentent comme des couleuvres d'argent, des ruisseaux faits avec les larmes des cerfs aux abois. De loin en loin, on voit briller sur le gazon les anémones pareilles à des gouttes de sang et se rengorger les marguerites, la tête chargée d'une couronne de perles comme de véritables duchesses. Les personnages ne sont d'aucun temps ni d'aucun pays. Ils vont et viennent, sans que l'on sache pourquoi ni comment. Ils ne mangent ni ne boivent, ils ne demeurent nulle part et n'ont aucun métier. Ils ne possèdent ni terre, ni rente, ni maison. Quelquefois seulement, ils portent sous le bras une petite caisse pleine de diamants gros comme des œufs de pigeon. En marchant, ils ne font pas tomber une seule goutte de pluie de la pointe des fleurs et ne soulèvent pas un seul grain de la poussière des chemins. Leurs habits sont les plus extravagants et les plus fantasques du monde. Des chapeaux pointus comme des clochers avec des bords aussi larges qu'un parasol chinois et des plumes démesurées attachées à la queue de l'oiseau de paradis et du phénix. Des capes rayées de couleurs éclatantes, des pourpoints de velours et de brocart laissant voir leur doublure de satin ou de toile d'argent par leurs crevés galonnés d'or. Des hauts de choses bouffants et gonflés comme des ballons, des bas écarlates à coins brodés, des souliers à talons hauts et à larges rosettes, de petites épées fluettes, la pointe en l'air, la poignée en bas, toutes pleines de gants et de rubans. Voilà pour les hommes. Les femmes ne sont pas moins curieusement accoutrées. Les dessins de Della Bona et de Romain de Houges peuvent servir à se représenter le caractère de leur ajustement. Ce sont des robes étoffées, ondoyantes, avec de grands plis qui chatoient comme des gorges de tourterelles et reflète toutes les teintes changeantes de l'iris, de grands manches d'où sortent d'autres manches, des fraises de dentelle déchiquetées à jour, qui montent plus haut que la tête à laquelle elles servent de cadre, des corsets chargés de nœuds et de broderies, des aiguillets, des joyaux bizarres, des aigrettes de plumes de hérons, des corniers de grosses perles, des éventails de queues de paon avec des miroirs au milieu, de petites mules et des patins, des guirlandes de fleurs artificielles, des paillettes, des gaz lamés, du fard, des mouches, et tout ce qui peut ajouter du ragoût et du piquant à une toilette de théâtre. C'est un goût qui n'est précisément ni anglais, ni allemand, ni français, ni turc, ni espagnol, ni tartare, quoiqu'il tienne un peu de tout cela, et qu'il ait pris à chaque pays ce qu'il avait de plus gracieux et de plus caractéristique. Des acteurs ainsi habillés peuvent dire tout ce qu'ils veulent sans choquer la vraisemblance. La fantaisie peut courir de tous côtés, le style déroulé à son aise ses anneaux diaprés, comme une couleuvre qui se chauffe au soleil. Les colchetti les plus exotiques épanouir sans crainte leur calice singulier et répandre autour d'eux leur parfum d'ambre et de musc. Rien ne s'y oppose, ni les lieux, ni les noms, ni la costume. Comme ce qu'il débite est amusant et charmant. Ce ne sont pas eux, les beaux acteurs, qui iraient, comme ces hurleurs de drame, se tordre la bouche et se sortir les yeux de la tête pour dépêcher la tirade à effet. Au moins, ils n'ont pas l'air d'ouvriers à la tâche, de bœufs attelés à l'action et pressés d'en finir. Ils ne sont pas plâtrés de craie de rouge d'un demi-pouce d'épaisseur. Ils ne portent pas des poignards de fer blanc. Ils ne tiennent pas en réserve, sous leur casaque, une vessie de porc remplie de sang de poulet. Ils ne traînent pas dans la même lambeau, taché d'huile pendant des actes entiers. Ils parlent, sans se presser, sans crier, comme des gens de bonne compagnie, qui n'attachent pas grande importance à ce qu'ils font. L'amoureux fait à l'amoureuse sa déclaration de l'air le plus détaché du monde. Tout en causant, il frappe sa cuisse du bout de son gant blanc ou rajuste ses canons. La dame secoue nonchalamment la rosée de son bouquet et fait des pointes avec sa suivante. L'amoureux se soucie très peu d'attendrir sa cruelle. Sa principale affaire est de laisser tomber de sa bouche des grappes de perles, des touffes de roses et de semer en vrai prodigue les pierres précieuses poétiques. Souvent même, il s'efface tout à fait et laisse l'auteur courtiser sa maîtresse pour lui. La jalousie n'est pas son défaut et son humeur est des plus accommodantes. Les yeux levés vers les bandes d'air et les frises du théâtre, il attend complaisamment que le poète ait achevé de dire ce qui lui passait par la fantaisie pour reprendre son rôle et se remettre à genoux. Tout se noue et se dénoue avec une insouciance admirable. Les effets n'ont point de cause et les causes n'ont point d'effet. Le personnage le plus spirituel est celui qui dit le plus de sottises. Le plus sot dit les choses les plus spirituelles. Les jeunes filles tiennent des discours qui feraient rougir des courtisanes. Les courtisanes débitent des maximes de morale. Les aventures les plus inouïes se succèdent coup sur coup sans qu'elles soient expliquées. Le père noble arrive tout exprès de la Chine dans une jonque de bambou pour reconnaître une petite fille enlevée. Les dieux et les fées ne sont que montés et descendent dans leur machine. L'action plonge dans la mer, sous le dôme des topazes des flots et se promène au fond de l'océan, à travers les forêts de coraux et de madrépores, où elle s'élève au ciel, sur les ailes de l'alouette et du griffon. Le dialogue est très universel. Le lion y contribue par un « oh oh » vigoureusement poussé. La muraille parle par ses crevasses, et pourvu qu'il ait une pointe, un rébus ou un calembour à y jeter, chacun est libre d'interrompre la scène la plus intéressante. La tête d'âne de Bottom est aussi bienvenue que la tête blonde d'Ariel. L'esprit de l'auteur s'y fait voir sous toutes les formes, et toutes ces contradictions sont comme autant de facettes qui en réfléchissent les différents aspects en y ajoutant les couleurs du prisme. Ce pêle-mêle et ce désordre apparent se trouvent au bout du compte rendre plus exactement la vie réelle sous ses allures fantasques que le drame demeure le plus minutieusement étudié. Tout homme renferme en soi l'humanité entière, et en écrivant ce qui lui vient à la tête, il réussit mieux qu'en copiant à la loupe les objets placés en dehors de lui. Oh, la belle famille! Jeunes amoureux romanesques, demoiselles vagabondes! Roi débonnaire, dont le nom est ignoré de l'historien et le royaume du géographe, graciosos bariolés et clowns aux réparties aiguës et aux miraculeuses cabrioles, ô vous qui laissez parler le liber caprice par votre bouche souriante, je vous aime et je vous adore entre tous et sur tous. Perdita, Rosalind, Célie, Pandarus, Parole, Silvio, Léandre et les autres, tous ces types charmants, si faux et si vrais, qui sur les ailes bigarrées de la folie s'élèvent au-dessus de la grossière réalité et dans qui le poète personnifie sa joie, sa mélancolie, son amour et son rêve le plus intime sous les apparences les plus frivoles et les plus dégagées. Dans ce théâtre écrit pour les fées et qui doit être joué au clair de lune, il est une pièce qui me ravit principalement. C'est une pièce si errante, si vagabonde, dont l'intrigue est si vaporeuse et les caractères si singuliers que l'auteur lui-même, ne sachant quel titre lui donner, l'a appelé « Comme il vous plaira ». Nom élastique et qui répond à tout. En lisant cette pièce étrange, on se sent transporté dans un monde inconnu dont on a pourtant quelques vagues réminiscences. On ne sait plus si l'on est mort ou vivant, si l'on rêve ou si l'on veille. De gracieuses figures vous sourient doucement et vous jettent, en passant, un bonjour amical. Vous vous sentez ému et troublé à leur vue, comme si, au détour d'un chemin, vous rencontriez tout à coup votre idéal, ou que le fantôme oublié de votre première maîtresse se dressa subitement devant vous. Des sources coulent en murmurant des plaintes à demi étouffées. Le vent remue les vieux arbres de l'antique forêt sur la tête du vieux duc exilé, avec des soupirs compatissants. Et lorsque James le mélancolique laisse aller au fil de l'eau avec les feuilles du saule ses philosophiques doléances, il vous semble que c'est vous-même qui parlez et que la pensée la plus secrète et la plus obscure de votre cœur se révèle et s'illumine. Ô jeune fils du brave chevalier Roland des Bois, tant maltraité du sort, je ne puis m'empêcher d'être jaloux de toi. Tu as encore un serviteur fidèle, le bon Adam, dont la vieillesse est si verte sous la neige de ses cheveux. Tu es banni, mais au moins tu l'es après avoir lutté et triomphé. Ton méchant frère t'enlève tout ton bien. Mais Rosalinde te donne la chaîne de son cou. Tu es pauvre, mais tu es aimé. Tu quittes ta patrie, mais la fille de ton persécuteur te suit au-delà des mers. Les noirs Ardennes vont pour te recevoir et te cacher leurs grands brins de feuillage. La bonne forêt, pour te coucher, amasse au fond de ses grottes sa mousse la plus soyeuse. Elle incline ses arceaux sur ton front afin de te garantir de la pluie et du soleil. Elle te plaint avec les larmes de ses sources et les soupirs de ses fangs et de ses dents qui brament. Elle fait de ses rochers de complaisants pupitres pour tes épîtres amoureuses. Elle te prête les épines de ses buissons pour les suspendre et ordonne à l'écorce de satin de ses trembles de sceller à la pointe de ton stylet quand tu veux y graver le chiffre de Rosalinde. Si l'on pouvait, jeune Orlando, avoir comme toi une grande forêt ombreuse pour se retirer et s'isoler dans sa peine, et si, au détour d'une allée, on rencontrait celle que l'on cherche, reconnaissable quoique déguisée, Mais hélas, le monde de l'âme n'a pas d'Ardenne verdoyante, et ce n'est que dans le parterre de poésie qu'ils s'épanouissent ces petites fleurs capricieuses et sauvages dont le parfum fait tout oublier. Nous avons beau verser des larmes, elles ne forment pas de ces belles cascades argentines. Nous avons beau soupirer, aucun écho complaisant ne se donne la peine de nous renvoyer nos plaintes ornées d'assonances et de concetti. C'est en vain que nous accrochons des sonnets aux piquants de toutes les ronces. Jamais Rosalinde ne les ramasse, et c'est gratuitement que nous entaillons l'écorce des arbres de chiffres amoureux. Oiseaux du ciel, prêtez-moi chacun une plume, l'hirondelle comme l'aigle, le colibri comme l'oiseau roc, afin que je m'en fasse une paire d'ailes pour voler haut et vite par des régions inconnues, où je ne retrouve rien qui rappelle à mon souvenir la cité des vivants, où je puisse oublier que je suis moi et vivre d'une vie étrange et nouvelle, plus loin que l'Amérique, plus loin que l'Afrique, plus loin que l'Asie, plus loin que la dernière île du monde, par l'océan de glace, au-delà du pôle où tremble l'aurore boréale, dans l'impalpable royaume où s'envolent les divines créations des poètes et les types de la suprême beauté. Comment supporter les conversations ordinaires dans les cercles et les salons quand on a entendu parler étincelant Mercutio, dont chaque phrase éclate en pluie d'or et d'argent comme une bombe d'artifice sous un ciel semé d'étoiles? Pâle Desdémone, à quel plaisir veux-tu que l'on prenne, après la romance du saule, à aucune musique terrestre? Quelle femme ne semble pas laide à côté de vos Vénus, sculpteurs antiques portés aux strophes de marbre? Ah, malgré l'étreinte furieuse dont j'ai voulu enlacer le monde matériel au défaut de l'autre, je sens que je suis mal né, que la vie n'est pas faite pour moi, et qu'elle me repousse. Je ne puis me mêler à rien. Quelque chemin que je suive, je me fourvoie. L'allée unie, le sentier rocailleux, me conduisent également à l'abîme. Si je veux prendre mon essor, l'air se condense autour de moi, et je reste pris, les ailes étendues, sans les pouvoir refermer. Je ne puis ni marcher, ni voler. Le ciel m'attire quand je suis sur terre, la terre quand je suis au ciel. En haut, l'aquilon m'arrache les plumes, en bas, les cailloux m'offensent les pieds. J'ai les plantes trop tendres pour cheminer sur les tessons de verre de la réalité, l'envergure trop étroite pour planer au-dessus des choses et m'élever de cercle en cercle dans l'azur profond du mysticisme jusqu'au sommet inaccessible de l'éternel amour. Je suis le plus malheureux hippogriffe, le plus misérable ramassis de morceaux hétérogènes qui ait jamais existé depuis que l'océan aime la lune et que les femmes trompent les hommes. Les monstrueuses chimères mises à mort par Bellérophon avec sa tête de vierge, ses pattes de lion, son corps de chèvre et sa queue de dragon, était d'un animal d'une composition simple auprès de moi. Dans ma frêle poitrine habitent ensemble les rêveries semées de violettes de la jeune fille pudique et les ardeurs insensées des courtisanes en orgie. Mes désirs vont comme les lions, aiguisant leurs griffes dans l'ombre et cherchant quelque chose à dévorer. Mes pensées, plus fiévreuses et plus inquiètes que les chèvres, se suspendent aux crêtes les plus menaçantes. Ma haine, toute bouffie de poison, entortille en nœuds inextricables ses replis écaillés et se traîne longuement dans les ornières et les ravins. C'est un étrange pays que mon âme, un pays florissant et splendide en apparence, mais plus saturé de miasmes putrides et délétères que le pays de Batavia. Le moindre rayon de soleil sur la vase y fait éclore les reptiles et pulluler les moustiques. Les larges tulipes jaunes Les nagasaris et les fleurs d'Anskoxka y volent pompeusement d'immondes charognes. La rose amoureuse ouvre ses lèvres écarlates et fait voir en souriant ses petites dents de rosée au galant rossignol qui lui récit des madrigaux et des sonnets. Rien n'est plus charmant, mais il y a cent à parier contre un que dans l'herbe au bas du buisson un crapaud hydropique rampe sur des pattes boiteuses et argentées son chemin avec sa bave. Voilà des sources plus claires et plus limpides que le diamant le plus pur. Mais il vaudrait mieux pour vous puiser l'eau stagnante du marais sous son manteau de jonc pourri et le chien noyé que de tremper votre coupe à cette onde. Un serpent est caché au fond et tourne sur lui-même avec une effrayante rapidité en dégorgeant son venin. Vous avez planté du blé, il pousse de l'asphodèle, de la jusquiame, de l'ivraie et de pâle ciguë au rameau vert de grisé. Au lieu de la racine que vous aviez enfouie, vous êtes tout surpris de voir sortir de terre les jambes velues et tortillées de la noire mandragore. Si vous y laissez un souvenir et que vous veniez le reprendre quelque temps après, vous le retrouverez plus verdi de mousse et plus fourmillant de cloportes et d'insectes dégoûtants qu'une pierre posée sur le terrain humide d'une cave. N'essayez pas d'en franchir les ténébreuses forêts. Elles sont plus impraticables que les forêts vierges d'Amérique et que les jungles de Java. Des lianes fortes comme des câbles courent d'un arbre à l'autre. Des plantes hérissées et pointues comme des fers de lance obstrue tous les passages, le gazon lui-même est couvert d'un duvet brûlant comme celui de l'ortie. Aux arceaux du feuillage se suspendent par les ongles de gigantesques chauves-souris du genre vampire. Des scarabées d'une grosseur énorme agitent leurs cornes menaçantes et fouettent l'air de leurs quadruples ailes. Des animaux monstrueux et fantastiques comme ceux que l'on voit passer dans les cauchemars, s'avancent péniblement en cassant les roseaux devant eux. Ce sont des troupeaux d'éléphants qui écrasent les mouches entre les rides de leur peau desséchée ou qui se frottent les flancs au long des pierres et des arbres, des rhinocéros à la carapace rugueuse, des hippopotames aux mufles bouffis et hérissés de poils qui vont pétrissant la boue et le détritus de la forêt avec leurs larges pieds. Dans les clairières, là où le soleil enfonce comme un coin d'or un rayon lumineux, à travers la moite humidité, à l'endroit où vous auriez voulu vous asseoir, vous trouverez toujours quelques familles de tigres nonchalamment couchés, humant l'air par les naseaux, clignant leurs yeux verts de mer et lustrant leur fourrure de velours avec leur langue rouge de sang et couverte de papilles. Ou bien c'est quelques nœuds de serpent boa, à moitié endormi et digérant le dernier taureau avalé. Redoutez tout, l'herbe, le fruit, l'eau, l'air, l'ombre, le soleil, tout est mortel. Fermez l'oreille aux babilles des petites perruches, au bec d'or et au cou d'émeraude qui descendent des arbres et viennent se poser sur vos doigts en palpitant des ailes. Car avec leur joli bec d'or, les petites perruches au cou d'émeraude finiront par vous crever gentiment les yeux au moment où vous vous abaisserez pour les embrasser. C'est ainsi. Le monde ne veut pas de moi. Il me repousse comme un spectre échappé des tombeaux. J'en ai presque la pâleur. Mon sang se refuse à croire que je vis et ne veut pas colorer ma peau. Il se traîne lentement dans mes veines comme une eau croupie dans des canaux engorgés. Mon cœur ne bat pour rien de ce qui fait battre le cœur de l'homme. Mes douleurs et mes joies ne sont pas celles de mes semblables. J'ai violemment désiré ce que personne ne désire. J'ai dédaigné des choses que l'on souhaite éperdument. J'ai aimé des femmes quand elles ne m'aimaient pas, et j'ai été aimé quand j'aurais voulu être haï. toujours trop tôt ou trop tard, plus ou moins, en deçà ou au-delà, jamais ce qu'il aurait fallu, où je ne suis pas arrivé ou j'ai été trop loin. J'ai jeté ma vie par les fenêtres où je l'ai concentrée à l'excès sur un seul point, et de l'activité inquiète de l'art des lions, j'en suis venu à la morne somnolence du teriyaki et du stylite sur sa colonne. Ce que je fais a toujours l'apparence d'un rêve. Mes actions semblent plutôt le résultat du somnambulisme que celui d'une libre volonté. Quelque chose est en moi que je sens obscurément à une grande profondeur, qui me fait agir sans ma participation et toujours en dehors des lois communes. Le côté simple et naturel des choses ne se révèle à moi qu'après tous les autres, et je saisirai tout d'abord l'excentrique et le bizarre. Pour peu que la ligne biaise, j'en ferai bientôt une spirale plus entortillée qu'un serpent. Les contours, s'ils ne sont pas arrêtés de la manière la plus précise, se troublent et se déforment. Les figures prennent un air surnaturel et vous regardent avec des yeux effrayants. Ainsi, par une espèce de réaction instinctive, je me suis toujours désespérément cramponné à la matière, à la silhouette extérieure des choses, et j'ai donné dans l'art une très grande place à la plastique. Je comprends parfaitement une statue, je ne comprends pas un homme. Où la vie commence, je m'arrête et recule effrayé comme si j'avais vu la tête de Méduse. Le phénomène de la vie me cause un étonnement dont je ne puis revenir. Je ferai sans doute un excellent mort, car je suis un assez pauvre vivant et le sens de mon existence m'échappe complètement. Le son de ma voix me surprend à un point inimaginable. Et je serais tenté quelquefois de la prendre pour la voix d'un autre. Lorsque je veux étendre mon bras et que mon bras m'obéit, cela me paraît tout à fait prodigieux et je tombe dans la plus profonde stupéfaction. En revanche, Silvio, je comprends parfaitement l'inintelligible. Les données les plus extravagantes me semblent fort naturelles et j'y entre avec une facilité singulière. Je trouve aisément la suite du cauchemar, le plus capricieux, le plus échevelé. C'est la raison pourquoi le genre de pièce dont je te parlais tout à l'heure me plaît par-dessus tous les autres. Nous avons avec Théodore et Rosette de grandes discussions à ce sujet. Rosette goûte peu mon système, elle est pour la vérité vraie. Théodore donne aux poètes plus de latitude et admet une vérité de convention et d'optique. Moi, je soutiens qu'il faut laisser le champ tout à fait libre à l'auteur et que la fantaisie doit régner en souveraine. Beaucoup de personnes de la compagnie se fondaient principalement sur ce que ces pièces étaient en général hors des conditions théâtrales ne pouvaient pas se jouer. Je leur ai répondu que cela était vrai dans un sens et faux dans l'autre, à peu près comme tout ce que l'on dit, et que les idées que l'on avait sur les possibilités, les impossibilités de la scène me paraissaient manquer de justesse et tenir à des préjugés plutôt qu'à des raisons. Et je dis, entre autres choses, que la pièce « Comme il vous plaira » était assurément très exécutable, surtout pour des gens du monde qui n'auraient pas l'habitude d'autres rôles. Et cela fit venir l'idée de la jouer. La saison s'avance et l'on a épuisé tous les genres d'amusement. L'on est las de la chasse, des parties à cheval et sur l'eau. Les chances du Boston, toutes variées qu'elles soient, n'ont pas assez de piquant pour occuper la soirée, et la proposition fut reçue avec un enthousiasme universel. Un jeune homme qui savait peindre s'offrit pour faire les décorations. Il y travaille maintenant avec beaucoup d'ardeur et dans quelques jours elles seront achevées. Le théâtre est dressé dans l'orangerie qui est la plus grande salle du château et je pense que tout ira bien. C'est moi qui fais Orlando. Rosette devait jouer Rosalinde, cela était de toute justice. Comme ma maîtresse et comme maîtresse de la maison, le rôle lui revenait de droit. Mais elle n'a pas voulu se travestir en homme par un caprice assez singulier pour elle, dont assurément la pruderie n'est pas le défaut. Si je n'avais pas été sûr du contraire, j'aurais cru qu'elle avait les jambes mal faites. Actuellement, aucune des dames de la société n'a voulu se montrer moins scrupuleuse que Rosette. Et cela a failli faire manquer la pièce. Mais Théodore, qui avait pris le rôle de James le mélancolique, s'est offert pour la remplacer, attendu que Rosalinde est presque toujours en cavalier, excepté au premier acte, où elle est en femme. Et qu'avec du fard, un corset et une robe, il pourra faire suffisamment l'illusion, n'ayant point encore de barbe et étant fort mince de taille. Nous sommes en train d'apprendre nos rôles et c'est quelque chose de curieux que de nous voir. Dans tous les recoins solitaires du parc, vous êtes sûr de trouver quelqu'un avec un papier à la main, marmottant des phrases tout bas, levant les yeux au ciel, les baissant tout à coup et refaisant 7 à 8 fois le même geste. Si l'on ne savait pas que nous devons jouer la comédie, assurément on nous prendrait pour une moissonnée de fous de poètes, ce qui est presque un pléonasme. Je pense que nous serons bientôt assez pour faire une répétition. Je m'attends à quelque chose de très singulier. Peut-être ai-je tort. J'ai peur un instant qu'au lieu de jouer d'inspiration, nos acteurs ne s'attachassent à reproduire les poses et les inflexions de voix de quelques comédiens en vogue, mais ils n'ont heureusement pas suivi le théâtre avec assez d'exactitude pour tomber dans cet inconvénient. Et il est à croire qu'ils auront, à travers la gaucherie de gens qui n'ont jamais monté sur les planches, de précieux éclairs de naturel et de ces charmantes naïvetés que le talent le plus consommé ne saurait reproduire. Notre jeune peintre a vraiment fait des merveilles. Il est impossible de donner une tournure plus étrange aux vieux troncs d'arbres et aux lierres qui les enlacent. Il a pris modèle sur ceux du parc en les accentuant et les exagérant, ainsi que cela doit être pour une décoration. Tout est touché avec une fierté et un caprice admirable. Les pierres, les rochers, les nuages sont d'une forme mystérieusement grimaçante. Des reflets miroitants jouent sur les eaux tremblantes et plus émues que le vif argent, et la froideur ordinaire des feuillages est merveilleusement relevée par des teintes de safran qui jettent le pinceau de l'automne. La forêt varie depuis le vert de l'émeraude jusqu'à la pourpre de la cornaline. Les tons les plus chauds et les plus frais se heurtent harmonieusement, et le ciel lui-même passe du bleu le plus tendre aux couleurs les plus ardentes. Il a dessiné tous les costumes sur mes indications. Ils sont du plus beau caractère. On a d'abord crié qu'ils ne pourraient pas se traduire en soie et en velours, ni en aucune étoffe connue, et j'ai presque vu le moment où le costume troubadour allait être généralement adopté. Les dames disaient que ces couleurs tranchantes éteindraient leurs yeux, à quoi nous avons répondu que leurs yeux étaient des astres, très parfaitement inextinguibles, et que c'était au contraire leurs yeux qui éteindraient les couleurs et même les quinquets, le lustre et le soleil, s'il y avait lieu. Elle n'eut rien à répondre à cela. Mais c'était d'autres objections qui repoussaient en foule et se hérissaient, pareil à l'hydre de Lerne. On n'avait pas plutôt coupé la tête à l'une que l'autre se dressait plus entêtée et plus stupide. Mais comment voulez-vous que cela tienne? Tout va sur le papier, mais c'est autre chose sur le dos. Oh, je n'entrerai jamais là-dedans. Mon jupon est trop court, au moins de 4 doigts. Je n'oserais jamais me présenter ainsi. Cette fraise est trop haute. J'ai l'air d'être bossu et d'avoir pas de cou. Oh, cette coiffure me vieillit intolérablement. avec de l'emploi, des épingles et de la bonne volonté, tout tient. Vous voulez rire, une taille comme la vôtre, plus frêle qu'une taille de guêpe et qui passerait dans la bague de mon petit doigt. Mais je gage 25 louis contre un baiser qu'il faudra rétrécir ce corsage. Votre jupe est bien loin d'être trop courte, et si vous pouviez vous voir, quelle adorable jambe vous avez, vous seriez assurément de mon avis. Oh non, au contraire, votre cou se détache et se dessine admirablement bien dans son auréole de dentelle. Cette coiffure ne vous vieillit point du tout, et quand même vous paraîtriez quelques années de plus. Vous êtes d'une si excessive jeunesse que cela doit être, on ne peut plus indifférent. En vérité, vous vous donneriez d'étranges soupçons si nous ne savions pas où sont les morceaux de votre dernière poupée, etc., etc. Tu ne te figures pas la prodigieuse quantité de madrigaux que nous avons été obligés de dépenser pour contraindre nos dames à mettre des costumes charmants et qui leur allaient le mieux du monde. Nous avons eu aussi beaucoup de peine à leur faire poser congrûment leurs assassines. Quel diable de goût ont les femmes, et de quel titanique entêtement est possédée une petite maîtresse vaporeuse qui croit que le jaune paille glacé lui va mieux que le jonquille ou le rose vif. Je suis sûr que si j'avais appliqué aux affaires publiques la moitié des ruses et des intrigues que j'ai employées pour faire mettre une plume rouge à gauche et non à droite, je serais ministre d'État ou empereur pour le moins. Quel pandémonium! Quelle cohue énorme et inextricable doit être un théâtre véritable! Depuis que l'on a parlé de jouer la comédie, tout est ici dans le désordre le plus complet. Tous les tiroirs sont ouverts, toutes les armoires vidées. C'est un vrai pillage. Les tables, les fauteuils, les consoles, tout est encombré, on ne sait où poser le pied. Ils traînent par la maison des quantités prodigieuses de robes, de mantelets, de voiles, de jupes, de capes, de toques, de chapeaux. Et quand on pense que cela doit tenir sur le corps de 7 ou 8 personnes, on se rappelle involontairement ces bateleurs de la foire qui ont 8 à 10 habits les uns sur les autres, et l'on ne peut se figurer que de tout cet amas, il ne sortira qu'un costume pour chacun. Les domestiques ne font qu'aller et venir, il y en a toujours 2 ou 3 sur le chemin du château à la ville, et si cela continue, tous les chevaux deviendront poussifs. Un directeur de théâtre n'a pas le temps d'être mélancolique. Et je ne l'ai guère été depuis quelque temps. Je suis tellement assourdi, assommé, que je commence à ne plus rien comprendre à la pièce. Comme c'est moi qui remplis le rôle de l'impresario outre mon rôle d'Orlando, ma besogne est double. Quand il se présente quelques difficultés, c'est à moi qu'on a recours, et mes décisions n'étant pas toujours écoutées comme des oracles, cela dégénère en des discussions interminables. Si ce qu'on appelle vivre est d'être toujours sur ses jambes, de répondre à 20 personnes, de monter, de descendre des escaliers, de ne pas penser à 1 minute dans une journée, je n'ai jamais tant vécu que cette semaine. Je ne prends pourtant pas autant de part à ce mouvement que l'on pourrait le croire. L'agitation est très peu profonde et à quelques brasses on retrouverait l'eau morte et sans courant. La vie ne me pénètre pas si facilement que cela. Et c'est même alors que je vis le moins du monde, quoique j'aie l'air d'agir et de me mêler de ce qui se fait. L'action m'hébète et me fatigue à un point dont on ne peut se faire une idée. Quand je n'agis pas, je pense ou au moins je rêve. Et c'est une façon d'existence. Mais je ne l'ai plus dès que je sors de mon repos d'idole de porcelaine. Jusqu'à présent, je n'ai rien fait et j'ignore si je ferai jamais rien. Je ne sais pas arrêter mon cerveau, ce qui est toute la différence de l'homme de talent à l'homme de génie. C'est un bouillonnement sans fin. Le flot pousse le flot. Je ne puis maîtriser cette espèce de jet intérieur qui monte de mon cœur à ma tête et qui noie toutes mes pensées faute d'issue. Je ne puis rien produire, non par stérilité, mais par surabondance. Mes idées poussent si drues et si serrées qu'elles s'étouffent et ne peuvent mûrir. Jamais l'exécution, si rapide et si fougueuse qu'elle soit, n'atteindra une pareille vélocité. Quand j'écris une phrase, la pensée qu'elle rend est déjà aussi loin de moi que si un siècle se fût écoulé au lieu d'une seconde. Et souvent, il m'arrive d'y mêler, malgré moi, quelque chose de la pensée qui l'a remplacée dans ma tête. Voilà pourquoi je ne saurais vivre, ni comme poète, ni comme amant. Je ne puis rendre que les idées que je n'ai plus. Je n'ai les femmes que lorsque je les ai oubliées, que j'en aime d'autres. Homme, comment pourrais-je produire ma volonté au jour, puisque si fort que je me hâte, je n'ai plus le sentiment de ce que je fais, et que je n'agis que d'après une faible réminiscence. Prendre une pensée dans un filon de son cerveau, l'en sortir brute d'abord comme un bloc de marbre qu'on extrait de la carrière, la poser devant soi, et du matin au soir, un ciseau d'une main, un marteau de l'autre, cogner, tailler, gratter, et emporter à la nuit une pincée de poudre pour jeter sur son écriture, oh, voilà ce que je ne pourrais jamais faire. Je dégage bien en idée la svelte figure du bloc grossier, et j'en ai la vision très nette. Mais il y a tant d'angles à abattre, tant d'éclats à faire sauter, tant de coups de râpe et de marteau à donner pour approcher de la forme et saisir la juste sinuosité du contour que les ampoules me viennent aux mains et que je laisse tomber le ciseau par terre. Si je persiste, la fatigue prend un degré d'intensité tel que ma vue intime s'obscurcit totalement, et que je ne saisis plus à travers le nuage de marbre la blanche divinité cachée dans son épaisseur. Alors je la poursuis au hasard et comme à tâtons. Je mords trop dans un endroit, je ne vais pas assez avant dans l'autre. J'enlève ce qui devait être la jambe ou le bras, et je laisse une masse compacte où devait se trouver le vide. Au lieu d'une déesse, je fais un magot, quelquefois moins qu'un magot. Et le magnifique bloc, tiré à si grands frais, et avec tant de labeur des entrailles de la terre, martelé, taillé, fouillé en tous les sens, a plutôt l'air d'avoir été rongé et percé à jour par les polypes pour en faire une ruche que façonné par un statuaire d'après un plan donné. Mais comment fais-tu, Michel-Ange, pour couper le marbre par tranches, ainsi qu'un enfant qui sculpte un marron? De quel acier étaient faits tes ciseaux invaincus? Et quels robustes flancs vous ont portés, vous tous, artistes féconds et travailleurs, à qui nulle matière ne résiste, et qui faites couler votre rêve tout entier dans la couleur et dans le bronze? C'est une vanité innocente et permise, en quelque sorte, après ce que je viens de dire, de cruel sur mon compte. Et ce n'est pas toi qui m'en blâmeras, ô Silvio. Mais quoique l'univers ne doive jamais en rien savoir, et que mon nom soit d'avance voué à l'oubli, je suis un poète et un peintre. J'ai eu d'aussi belles idées que nul poète du monde. J'ai créé des types aussi purs, aussi divins, que ce que l'on admire le plus dans les maîtres. Je les vois, là, devant moi, aussi nets, aussi distincts que s'ils étaient peints réellement, et si je pouvais ouvrir un trou dans ma tête et y mettre un verre pour qu'on y regardât, ce serait la plus merveilleuse galerie de tableaux que l'on eût jamais vue. Aucun roi de la terre ne peut se vanter d'en posséder une pareille. Il y a des Rubens aussi flamboyants, aussi allumés que les plus purs qui soient à Anvers. Mes Raphaël sont dans la plus belle conservation, et mes Madones n'ont pas le plus gracieux sourire. Buonarroti ne tord pas un muscle d'une façon plus fière et plus terrible. Le soleil de Venise brille sur cette toile, comme si elle était signée Paulus Cagliari. Les ténèbres de Rembrandt lui-même s'entassent au fond de ce cadre où tremble dans le lointain une pâle étoile de lumière. Les tableaux qui sont dans la matière qui m'est propre ne seraient assurément dédaignés de qui que ce soit. Je sais bien que j'ai l'air étrange à dire cela, et que je paraîtrais entêté de l'ivresse grossière du plus sot orgueil, mais cela est ainsi, et rien n'ébranlera ma conviction là-dessus. Personne, sans doute, ne la partagera. Et qui faire? Chacun est marqué d'un sceau noir ou blanc. Apparemment, le mien est noir. J'ai même quelquefois peine à voiler suffisamment ma pensée à cet endroit. Il m'est arrivé souvent de parler trop familièrement de ces hauts génies dont on doit adorer la trace et contempler la statue de loin à genoux. Une fois, je me suis oublié jusqu'à dire « nous autres ». Heureusement, c'était devant une personne qui n'y prit pas garde, sans quoi j'eusse infailliblement passé pour le plus énorme fat qui fut jamais. N'est-ce pas, Silvio, que je suis un poète et un peintre? C'est une erreur de croire que tous les gens qui ont passé pour avoir du génie étaient réellement de plus grands hommes que d'autres. On ne sait pas combien les élèves et les peintres obscurs que Raphaël employait dans ses ouvrages ont contribué à sa réputation. Il a donné sa signature à l'esprit et au talent de plusieurs. Voilà tout. Un grand peintre, un grand écrivain occupent et remplissent à eux seuls tout un siècle. Ils n'ont rien de plus pressé que d'entamer à la fois tous les genres, afin que, s'il leur survient quelques rivaux, ils puissent les accuser tout d'abord de plagiat et les arrêter de leur premier pas dans la carrière. C'est une tactique connue et qui, pour ne pas être nouvelle, n'en réussit pas moins tous les jours. Il se peut qu'un homme déjà célèbre ait précisément le même genre de talent que vous auriez eu. Sous peine de passer pour son imitateur, vous êtes obligé de détourner votre inspiration naturelle et de la faire couler ailleurs. Vous étiez né pour souffler à pleine bouche dans le clairon héroïque ou pour évoquer les pâles fantômes des temps qui ne sont plus. Il faut que vous promeniez vos doigts sur la flûte à sept trous ou que vous fassiez des nœuds sur un sofa dans le fond de quelque boudoir, le tout parce que monsieur votre père ne s'est pas donné la peine de vous jeter en moule 8 ou 10 ans plus tôt et que le monde ne conçoit pas que deux hommes cultivent le même champ. C'est ainsi que beaucoup de nobles intelligences sont forcés de prendre sciemment une route qui n'est pas la leur et de côtoyer continuellement leur propre domaine dont elles sont bannies, heureuses encore de jeter un coup d'œil à la dérobée par-dessus la haie et de voir de l'autre côté s'épanouir au soleil les belles fleurs diaprées qu'elles possèdent en graines et ne peuvent semer, faute de terrain. Pour ce qui est de moi, à part le plus ou moins d'opportunité des circonstances, le plus ou moins d'air et de soleil, une porte qui est restée fermée et qui aurait dû être ouverte, une rencontre manquée, quelqu'un que j'aurais dû connaître et que je n'ai pas connu, je ne sais pas si je serais parvenu à quelque chose. Je n'ai pas le degré de stupidité nécessaire pour devenir ce que l'on appelle absolument un génie, ni l'entêtement énorme que l'on divinise ensuite sous le beau nom de volonté quand le grand homme est arrivé au sommet rayonnant de la montagne et qui est indispensable pour y atteindre. Je sais trop bien comme toutes choses sont creuses et ne contiennent que pourriture pour m'attacher pendant bien longtemps à aucune et la poursuivre à travers tout ardemment et uniquement.